Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Vous êtes toujours dans Restons courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. Et nous avons la joie de recevoir Thomas Morales. Bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes écrivain, journaliste, on vous lit, on vous a lu, et on vous lit encore dans Technicart, Le Figaro, Causeur, Valeurs Actuelles, Schnock et bien d'autres. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, des romans, des essais sur la France, et pas n'importe laquelle, celle de Bébel, des bouquinistes, de la province, de Max Pécasse, des bagnoles, de la littérature, de Marielle, du barbecue et de Broca. Bref, on peut citer au hasard Éloge de la voiture, Défense d'une espèce en voie de disparition, publié au Rocher en 2018, Tendre et la province aux Équateurs en octobre 2024, ou encore Monsieur Nostalgie, Héliopole en 2023. Et donc votre dernier roman, Les Tendresses de Zanzibar au Rocher, vous l'aurez compris, chers auditeurs, vous avez avec vous une espèce en voie de disparition, un type capable de parler pendant des heures et avec gourmandise et plein d'amour, de la R5, des nanars, d'une station-service sur la Nationale 7, et de vous faire croire que la province est le paradis. Mais avant de nous plonger dans vos écrits, délicieux, piquants, bravaches et nostalgiques, bref français, nous avons une tradition, c'est celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Thomas Morales, quel est le film français que tout le monde adore, mais qui vous laisse totalement froid?
Question délicate, je dirais quand même La Folie des Grandeurs. Voilà, et La Folie, j'y vais fort, j'attaque très très fort. La Folie des Grandeurs, je ne sais pas si j'ai quelques secondes. D'abord, je suis
Il faut même beaucoup de temps pour développer.
Alors, je suis pas fan déjà d'Yves Montand. Voilà, je considère que c'est un acteur, on va dire moyen, si je veux être gentil. Et De Funès, c'est pas au meilleur de sa forme. On va dire que c'est un De Funès vieillissant, caricatural. Ça ne me décroche pas un seul sourire. Voilà. Vous voyez, donc on démarre déjà très très fort.
Ça, c'est voilà.
Vous vous attendiez à ce que voilà, j'en fasse.
C'est très incorrect. Comme...
Ah non, mais c'est très bien. Il faut surprendre les auditeurs. S'il ne fallait garder qu'une seule voiture.
C'est impossible, ça. C'est possible.
Vous avez détesté la Folie des Grandeurs pour trouver une bagnole.
S'il fallait en garder une seule, ce serait l'AMC Pacer. Alors, c'est une voiture américaine qui a été produite dans la deuxième moitié des années 70, en gros entre 75 et le début 80. Ça a été un échec commercial total. Vous l'avez peut-être aperçu dans L'aile ou la cuisse. C'est la voiture que conduit Coluche. C'est une voiture, une petite américaine, avec des fesses très bombées, une surface vitrée énorme, on aurait dit un aquarium. Bon, j'adore cette voiture-là. Elle était distribuée par les établissements Jean-Charles, spécialiste des voitures américaines à Paris. Ils avaient deux boutiques, une avenue de New York et leur atelier rue Claude Terrasse. Là, on était dans le 16e. Et Jean-Charles avait une particularité. Il avait beaucoup de connexions avec le cinéma. Et il réussissait à placer, avant qu'on appelle ça le product placement, il plaçait ses voitures dans des films, souvent des comédies. Il était très ami avec Alain Delon, avec Brigitte Bardot. Donc on a vu cette Pacer dans quelques films, et c'est Jeep aussi. Il était distributeur Jeep dans les années 70.
Le placement de produit, ça marche toujours. Voilà. Blanquette de veau ou hareng pomme à l'huile?
Hareng pomme à l'huile.
Bravo. Le film que vous pourriez revoir 50 fois sans vous lasser?
Alors, Tendre poulet, de Philippe de Broca. Parce que c'est irrésistible. Girardot, Noiret, bon, c'est indépassable.
Voilà. Le 2 est vraiment très mauvais.
Ah, le 2 est moins bon, mais je le regarde quand même.
La route française la plus romanesque?
Alors, ce serait une route en Bretagne, dans le pays de mon épouse et de ma belle famille, dans le Finistère Nord, la route touristique est à Port-Spaudère, Landunvez, Port-Spaudère, c'est 3,5 km de corniche avec la mer qui vient se fracasser dans les rochers. Donc c'est une des plus belles routes de France.
S'il ne fallait garder qu'un seul Michel, Michel Houellebecq, Michel Delpech ou Michel Audiard?
Delpech, allez. Delpech, parce que c'est celui qui touche certainement le plus au cœur. Voilà. Audiard touche les zygomatiques, on s'amuse beaucoup, les dialogues sont fantaisistes à l'extrême. Houellebecq, il touche la tête, donc je préfère quand même le cœur. Voilà, je reste un romantique, donc Delpech.
La chanson parfaite pour conduire la nuit?
peut-être Eddie Mitchell, il ne rentre pas ce soir.
Un journal à lire au comptoir.
Un journal auto, et donc un hebdomadaire, La Vie de l'Auto. Parce qu'il y a beaucoup d'annonces dans La Vie de l'Auto, ça paraît tous les jeudis. Et je suis un habitué de La Vie de l'Auto depuis 20 ans, 25 ans.
Gabin ou Ventura ?
Ventura, allez.
Une plante chasse, c'est ?
Saucisse sèche d'Ardèche et un fromage de chèvre de ma région, donc un crottin de Chavignol très sec.
Marielle, Jean-Pierre, en trois mots.
Marielle, c'est le panache, la voix et la fesse.
Et la France, c'est
La France, c'est d'abord la langue. Peut-être un chemin et un mot que j'aime beaucoup, c'est aussi l'onde nostalgique.
Merci beaucoup. Alors, Les tendresses de Zanzibar, publié aux éditions du Rocher. Romaric Sangars, en tant que bon journaliste culturel et rédacteur en chef des pages culture, vous l'avez lu, vous l'avez aimé.
Et je l'ai beaucoup aimé.
Et pourquoi ?
Et pourquoi ? D'abord parce que c'est un livre très surprenant, dans le sens où il se présente comme le tombeau d'un amour. Et qu'en fait, il est pétillant, vif, grisant, réellement grisant d'ailleurs. On voit que le narrateur, au fur et à mesure, conduit, s'éloigne et s'échappe des lieux dans lesquels il a vécu et lesquels il a aimé. Et que c'est dans cette fuite qu'il récapitule quelque part tous ces moments d'amour, de vie vécus avec sa femme pendant une trentaine d'années, ce qui lui permet aussi de faire un panorama, d'une certaine manière, un panorama de sa vie, de l'époque, de Paris, tout ça étant mêlé de manière assez folle. Ça pourrait être confus, et en fait, ça fonctionne très bien. On est vraiment pris par le rythme du livre, par le style admirable de Thomas Morales, qui peut tout faire. Là, vraiment, il y a des phrases extraordinaires en permanence, extrêmement séduisant. Pour ça, il y a vraiment du twist, du jazz et des formules qui sont superbes et qui fait qu'on se laisse porter comme ça, presque à 300 à l'heure sur une route, avec un livre qui est d'une à la fois d'une nostalgie et d'une vitalité en même temps. Et c'est ça qui est assez rare, tout à fait remarquable, et qui n'est pas du tout un livre endeuillé, même si finalement c'est la perspective, mais ce n'est pas du tout le vécu, en tout cas, du lecteur. Ce paradoxe parmi d'autres en fait une véritable réussite. C'est un livre assez court, hein, très bref, et qui porte une charge comme ça d'émotions paradoxales, de mémoire et d'évocations tout à fait foisonnantes. Et c'est vraiment un vrai petit feu d'artifice, un vrai petit bijou. Donc on conseille à tous nos éditeurs de se procurer rapidement. À ce sujet de ce livre, du coup, cher Thomas Morales, j'aimerais vous demander... comment on y lit comme ça cette vie. Puis aussi, c'est un livre chargé de gratitude. C'est-à-dire que le narrateur évoque son épouse après sa mort. Alors, c'est pareil, tout ça est très mélangé. C'est pas du tout chronologique. C'est des aperçus très impressionnistes, finalement. Régulièrement, il évoque la souffrance, l'agonie, la disparition. Mais on revient systématiquement à une atmosphère qui est celle d'une grande gratitude sur ce qui a été vécu, sur la force de cette vitalité, de cet amour, de ce bonheur, finalement. Mmh. Et j'aimerais vous demander, évidemment, quel processus étrange et comment vous y êtes pris pour... pourquoi avoir choisi ce contraste, ce cocktail, quoi. Cette formule.
Alors, comme le sujet est évidemment triste et plombant, je voulais quelque chose de lumineux. Hein. Donc, j'espère que c'est ce que vous avez ressenti à la lecture. Je voulais quelque chose de très condensé, hein, très resserré. Je dis souvent, c'est une novella, hein, c'est un court roman, mais à l'os, quasiment à l'épure. Je voulais pas de me perdre dans des paysages, des dialogues, des héros. Je voulais quelque chose de très, très strict. On restait sur un sillon d'une ligne quasiment claire. Donc, la gageure pour l'écrivain, c'est que tout repose uniquement sur le style. Voilà. C'est un exercice de style primaire, quasiment. Et j'avais aussi l'ambition, faut un peu d'ambition hein, littéraire. C'est un peu grandiloquent quand on le dit comme ça, mais de faire quelque chose de beau. Voilà, quelque chose de beau. Et j'avais l'habitude, vous avez dit quelques essais que j'ai écrits au fil des années, de se cacher parfois derrière un sujet, une époque, voilà, l'âge d'or, les 30 Glorieuses, ce qui est mon biotope culturel, hein, et je le renie pas, mais je voulais m'aventurer vers peut-être d'autres voies, entre guillemets, plus sérieuses, parce que quelqu'un qui vous dit ça et qui déteste l'esprit de sérieux, mais de faire peut-être un livre un peu plus sérieux et court, voilà. Et pas un roman, voilà. Je suis un peu réfractaire sur le roman en lui-même, voilà. Je n'y crois pas au roman, parce que dans le roman il y a souvent beaucoup trop de temps mort à mon goût. Et moi j'aime une littérature qui pétille, qui doit être explosive quasiment à chaque phrase. Le roman ne permet pas ça. Il ne permet pas. Il faut pouvoir s'ennuyer dans le roman, ouais. Ce que je déteste en tant que lecteur, ouais. Mais surtout en tant qu'écrivain. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est lié, c'est pour ça que je fais beaucoup de chroniques. Il y a quelque chose, les littéraires n'aiment pas tellement ça, mais qui est lié aussi à la performance. Voilà. J'aime faire quelque chose comme un sportif de haut niveau. Quand je démarre une chronique, je me mets en condition comme si j'allais faire un tour de piste, un 400 mètres ou plus court encore, un 100 ou un 200 mètres. Et ce livre-là, je voulais qu'on garde la vitalité, comme vous l'avez dit, de chaque phrase. Si je m'étais étendu dans des descriptions, un portrait plus psychologique, je pense qu'on y aurait perdu en gourmandise. Voilà. Il y a aussi quelque chose de gourmand dans ce livre-là. Et en même temps, quand je dis ça, c'est moi qui l'ai écrit. Et donc, il y a mes références. et mes références, elles me débordent. Voilà. Il y a tout l'environnement culturel qu'on a là dans ce questionnaire à la Proust déguisée qui existe. Il est aussi, les gens qui ont l'habitude de me lire... ne seront pas totalement surpris. Ils retrouveront bien, j'ai mes marottes, hein, Noiret, Broca, parfois par petites touches, vous avez raison, c'est des petites touches impressionnistes, hein, c'est pas, sinon ce serait un pâté relativement indigeste. Et surtout que le sujet, il est casse-gueule, je suis pas le premier, je serais pas le dernier à écrire un livre sur une histoire d'amour entre un homme et une femme, voilà, il n'y a pas plus simple. Et il y avait aussi dans cette idée-là, comme le sujet est très simple, essaye d'en faire quelque chose de beau, où il y ait de l'émotion et une émotion sincère. Parce qu'on peut, accentuer un sentimentalisme, souvent un peu dégoulinant, qui me dérange, moi, en tant que lecteur. Donc il fallait, comme je le dis dès le début, il fallait être très, très resserré, très vigilant, quasiment à la structure de la phrase.
Oui, on est complètement à rebours, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans que triomphe dans toutes les sorties littéraires le livre de deuil au dommage. Ouais. Alors, il n'y a que ça, hein, presque. Hein. Il y avait Rebecca Warrior, par exemple, en septembre, qui a eu le prix de Flore. Après, il y a eu Tout sur ma mère, Tout sur mon père, enfin, tous les endeuillés fils, c'était ça la mode. Peut-être ça va changer, mais bref. Donc, il y a eu énormément de livres qui étaient des livres de deuil et dommage. Et qui était en général plombant. Et puis, alors, quand ce défaut, je dirais presque de la littérature contemporaine, mais même de l'humain contemporain, ou du post-humain contemporain, on peut dire par rapport à ça, c'est qu'ils sont d'un atroce narcissisme, ouais. Et où finalement, il s'agit, regardez-moi en souffrance à travers l'hommage que je fais. Enfin bref, il y a toujours un truc comme ça. Ou alors, comme les héros sont aujourd'hui les victimes, évidemment, il y a une espèce de mise en scène de soi dans la douleur. Voilà, vous êtes, votre livre est exactement le contraire de ce genre de
merci, mais c'était, processus. C'était, voilà, un processus victimaire ne correspond pas totalement à
votre tempérament.
À ma conception de la littérature, ça c'est sûr.
Aussi, oui. Ça a dû en soi louer. Alors, il y a aussi un autre aspect, mais de la même manière, quelque part, que vous défendez la voiture et le barbecue. Il y a une espèce de grand éloge de l'hétérosexualité qui est devenue, quelque part, quelque chose de toxique, hein, normalement de dépasser.
Oui, c'était pas une provocation.
Bon. Il y a une manière, parce qu'il y a une espèce d'éloge de cette hétérosexualité. Alors, certes, le couple présent présenté dans le livre, s'élabore hors des canons classiques du couple bourgeois, ça c'est certain. Mais il n'en démontre pas moins les triomphes surprenants de l'amour hétérosexuel, je dirais, sur le groupe, sur le troupeau, sur le conformisme. C'est un peu ce qu'on oublie d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on va, systématiquement représenter l'hétérosexualité comme une espèce d'émanation du patriarcat ou je ne sais quoi, alors que finalement, vous montrez bien dans votre livre que le couple est aussi cette possibilité d'échapper au troupeau parce que l'autre nous rend invincibles et le couple expose quelque part sa gloire et sa manière bravache de résister au monde, pas de refuser le monde, mais de résister au monde par cette alliance. Je trouvais ça très intéressant.
Oui, c'était l'éloge du couple et d'un amour un peu éternel et d'une dissidence, voilà, mais d'une dissidence courtoise, hein, pas du tout revendicative, hein, un pas de côté. Voilà, ce couple se met, il vit évidemment, parce que tout le monde vit dans la vie moderne et dans une globalisation. Ils sont emportés aussi par les contingences matérielles, comme tout le monde, mais ils gardent cet amour qui est fort, hein, un peu magique, leur permet de s'échapper. C'est toujours une échappatoire toujours heureuse. Et la particularité de ce couple, c'est aussi un couple sans enfants. Voilà, il faut le souligner. Mais et sans enfants voulus des deux parts, chez l'homme et chez la femme. Oui, je voulais faire quelque chose. Alors, c'est très anti-moderne, hein, peut-être. Vous avez raison, un couple hétérosexuel qui fait perdurer un amour sur deux ou trois décennies, je ne savais pas que c'était révolutionnaire, mais peut-être que ça l'est. Finalement, c'est vrai, on lit beaucoup de livres, hein, et qui ne veut ni tuer les parents ou les grands-parents, là, qui ne veut pas faire un procès à la société, qui a trouvé dans cet amour-là, oui, vraiment, la question de la dissidence me semble primordiale dans ce livre-là.
Et puis, il y a aussi, comme on en parlait tout à l'heure, il y a une espèce de portrait en poupée russe dans le livre, puisque finalement, c'est le portrait d'un couple, c'est le portrait en creux de l'auteur aussi, évidemment, c'est le portrait d'une femme, et c'est le portrait de Paris, et c'est le portrait d'une époque. C'est le portrait d'une époque, puisque cet amour, finalement, enchante les 30 années qui sont vécues ensemble. C'est le portrait de Paris, alors comme terrain de jeu de cet amour, hein, d'une certaine manière. Mais aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre livre, c'est Paris comme cosmos. Je dirais que ça fait penser au paysan de Paris d'Aragon. C'est-à-dire qu'Aragon utilisait l'expression du paysan de Paris dans son livre, c'est-à-dire du parisien pour qui Paris devient une faune et une flore à connaître, comme le paysan connaît son territoire, connaît et explore quelque part les arbres, les étrangetés, les curiosités. De la même manière, on a un Paris cosmos, ou en tout cas certains quartiers de ce Paris qui sont mythifiés, qui sont connus, qui sont expérimentés, qui sont portraiturés. Et donc, j'aimerais vous poser deux questions par rapport à cette dimension-là. Premièrement, quel est votre rapport amoureux à Paris? Et deuxièmement, quel est le rapport que Paris entretient encore avec l'amour?
Alors, le rapport, c'est le rapport d'un provincial, voilà. On reste toujours un provincial. Moi, je suis un petit berrichon, un berruyer. Je suis né à Bourges. Donc, le premier rapport avec Paris, c'est cette gare d'Austerlitz. Voilà. Comme tous les gens venant là de ce côté-ci, du centre de la France, on arrive à Austerlitz et on dépasse rarement la Seine. Donc, je suis un homme de la rive gauche. J'ai toujours habité la rive gauche entre le 13e, le 14e arrondissement avec un goût, alors ça ferait rigoler Michel Audiard, mais pour la place d'enfer et le lion de Belfort, voilà. Alors il trouvait que c'était détestable, c'était le plus laid.
J'en parlais dans
voilà, et donc ça c'est vraiment c'est central pour plein de raisons, parce que bon, j'aime ce quartier-là, le boulevard Arago, la prison de la santé, et puis après on rentre dans l'esprit germano-pratin, le boulevard Raspail.
Oui, il y a Sainte-Anne qui est pas loin non plus.
Sainte-Anne est pas très loin, effectivement.
Ah non, mais c'est le centre de Paris, je vous le confirme.
Et Belmondo.
C'est le domaine aussi d'Arthur de Vatrigan.
Ah, et Belmondo, le père de Jean-Paul, avait son atelier de peinture là, donc il a passé toute sa jeunesse à observer son père peindre et surtout les modèles qui venaient. Il faisait beaucoup de nus, son père.
Et à quelques encablures de la rue Campagne Première où il va mourir pour devenir immortel.
Voilà, et là, Campagne Première, c'est à bout de souffle, c'est Godard. Donc,
c'est vrai.
Voilà, on a Et donc, j'aurai toujours les yeux de l'amour là, pour Paris. Je vois bien, évidemment, la déconstruction de Paris. Hein. Je suis pas aveugle totalement. Mais voilà, il y a des points cardinaux que je garde profondément dans mon cœur et qui n'ont finalement, certains endroits n'ont pas tellement bougé. Voilà, là, dans ce côté, vous connaissez bien le quartier de Montsouris, aux arènes de Lutèce. Bon, ça n'a pas tellement évolué. Il n'y a pas eu des grands...
C'est pas gentrifié ou dégentrifié.
Non,
c'est des
pas vraiment. Stable, pas vraiment. Quoi. C'était... Ouais. c'était... Et pour l'amour et Paris, alors il y a deux villes. Je dirais peut-être Rome est plus fort que Paris pour l'amour. Voilà.
Pourquoi ? Quels sont les avantages de Rome sur Paris ?
Le climat.
Oui, c'est vrai, c'est un avantage
climat,
simple.
Il y a un climat. Vous arrivez, il y a une sorte de chaleur un peu pesante. C'est très au sud, hein, Rome. Hein. Et puis là, c'est pas un parasol. Là, vous respirez. Hein, vous respirez à plein poumon. Oui, je suis toujours un peu ambigu parce que j'aime le soleil romain et la grisaille parisienne aussi. Une bonne pluie sur des pavés, voilà, c'est déjà le début d'un film ou d'un roman.
Et alors justement, pour vous qui venez de province, qui avez donc découvert Paris, et puis maintenant vous êtes devenu parisien,
bien sûr, ça fait...
comment définir la vie parisienne entre les images que vous aviez et puis votre vie depuis ?
La vie parisienne, alors quand on est en province, on imagine par exemple la vie des écrivains. On a été biberonné à apostrophe, donc on s'imagine une caste particulière avec des coutumes, des us et coutumes. La réalité est plus simple que ça. L'individualisme a gagné à peu près partout. Voilà. Et les images d'entraide, de cercle, tout ça sont assez fausses. Et là, dans les 25 dernières années, je dis souvent, l'écrivain est un homme seul. Voilà. Alors parfois, sur son parcours, et heureusement, dans la vie, on rencontre des amis, des soutiens, mais il est quand même seul. Seul devant sa page blanche, seul face à son éditeur, seul face aux médias. Donc moi, je suis un enfant unique, donc ça me dérange pas. J'ai l'habitude de cette solitude, mais je n'ai pas non rencontré une chaleur débordante à Paris. Mais le décor de cette capitale, avec cette scène, ces bouquinistes, même si c'est cliché, ça reste ancré dans la mémoire de tous les êtres humains. Voilà. Il faut au moins une fois venir à Paris. Voilà. N'importe quel Américain ou Brésilien, s'il n'est pas venu à Paris, qu'est-ce qu'il peut connaître réellement de la vie ?
Rien, évidemment.
À peu près rien.
Alors, qui dit Paris dit bistrot. Et vous en parlez souvent. Alors, c'est quoi un bistrot parisien ? Par exemple, le Lyonnais va dire, moi aussi, je dis bistrot, j'ai un bouchon. En quoi un bistrot est à Paris est atypique ? En quoi un bistrot n'est pas un bouchon ?
Ah non, alors un bistrot. Alors j'ai habité pas loin de la rue Mouffetard.
On sent qu'on a des questions graves.
Attention, oui, attention, faux.
C'est essentiel, bien sûr.
Oui, alors un bistrot, il y a le bistrot n'existe que par sa clientèle, quand même. Voilà déjà. Et le vrai bistrot parisien, comme moi je le pratique, alors c'est vrai qu'il existe un peu de moins en moins. C'est une cohabitation assez étonnante, très hétéroclite, d'individus qui d'habitude ne pourraient pas vraiment se rencontrer dans la rue, ils auraient aucune, ou dans une activité professionnelle, ils ne pourraient pas se rencontrer. À Paris, il y a cette particularité-là que dans un bistrot, on peut rencontrer un écrivain, un clodo, un homme d'affaires, un facteur, un employé du gaz. Il y a cette chose-là qui est finalement plus vraie à Paris qu'en province. Voilà. Il y a peut-être une mixité sociale dans le bistrot parisien qui existe moins, parce que faut pas se leurrer, en province on vit aussi selon sa caste.
Et puis on vit moins au bistrot.
On va un peu... Alors moi, je suis né dans un petit village de 1800 habitants, donc... On allait au bistrot. Quand on est ado, on va au bistrot. Donc, on rencontre, il y a quand même un peu, c'est assez hétérogène. Mais sinon, on est dans des couloirs. À Paris, on peut, On peut, je sais pas, ça m'est arrivé d'être au bistrot le soir et on se retrouve, il y a Christophe le chanteur, voilà, qui est à côté de vous. Donc ça, c'est assez étonnant.
C'est assez atypique. Et quand on parle de Paris, bah, rapidement, il y a un sujet qui arrive, c'est le sujet bagnole. Ah. Parce que entrer en Paris dans voiture ou quand on habite Paris, sortir sa voiture du parking quand on a la chance d'en avoir un pour sillonner la capitale ou comme Hélène de Lauzin venir à une émission de radio au jour de match, relève soit du parcours du combattant, soit du militantisme acharné. Paris sans voiture sera-t-il encore Paris ?
Ah non, 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 c'est autre chose. C'est autre chose, évidemment. Si vous fermez les portes aux provinciaux et surtout aux banlieusards, c'est un autre Paris. Voilà, c'est autre chose. C'est un parc touristique pour des étrangers. Alors moi, j'aime évidemment la voiture et j'aime la voiture dans Paris. Ça me fait marrer de voir où on a la pyramide du Louvre. Bon, c'était des parkings. Hein. La voie Georges Pompidou, je l'ai prise pendant les 5 premières années de ma vie professionnelle en voiture. Ben là, il y a la moitié de la voie Georges Pompidou qui est réservée au vélo. Donc, évidemment, ça donne une autre physionomie et une autre respiration à la ville. C'est une ville qui se renferme évidemment sur elle-même. Mmh. En ayant une orientation internationale, elle ferme ses portes. Voilà, aux provinciaux et aux Français, d'une certaine façon. Donc, et finalement, c'est une galère impossible. Hein. On veut aller à un salon à la porte de Versailles, je ne sais même pas comment on fait. Voilà, et quand on habite, je ne sais pas, Orléans, hein, pas besoin d'habiter Toulouse ou Montauban. Hein. Donc oui, moi qui ai connu assez bien les concessionnaires, voilà, c'est aussi, il y a certains coins de Paris qui correspondent, voilà, un certain type de voiture. Je suis venu jeune à Paris dans les années 80. On voyait des véhicules. Alors aujourd'hui, bon, c'est une banalité ce que je vais dire, mais bon, tout est homogénéisé. Hein, n'importe quelle voiture. En 1985, vous veniez à Paris de votre petit village du Berry, vous aviez l'occasion, je ne sais pas, de voir une voiture américaine. Hein, vous alliez à la Madeleine, déjeuner avec vos parents, vous voyez une voiture américaine, une Jaguar, une Porsche, une Ferrari, c'était une fête incroyable. Ça, c'était pour moi, c'est Paris. Voilà. Y a des coins avec des voitures, il y a des concessionnaires particuliers. Tout ça a été complètement balayé.
T'as été remplacé par des garages à vélo.
Et des vélos cargo.
Et voilà. Des vélos cargo, exactement, qui prennent beaucoup de place.
Et les trottinettes électriques.
Oui, mais ça, c'est mieux. Chers auditeurs, il est 19h01, le temps d'un petit message et on se retrouve tout de suite.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Vous êtes toujours dans Restons courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous avons la chance, la joie et l'honneur de recevoir Thomas Morales, auteur de nombreuses chroniques délicieuses, de nombreux romans et essais. Et donc son dernier, Les tendresses de Zanzibar, publié aux éditions du Rocher. Mais vous savez qu'à 19h, c'est également l'heure de la chronique de Romaric Sangartz. Alors cher Romaric, vous n'écoutez pas que Radio Courtoisie, vous écoutez aussi France Inter. Et donc, vous voudriez réagir aujourd'hui à un propos tenu hier par le réalisateur Xavier Giannoli, justement, sur France Inter.
Bon, je me disculpe, je n'écoute pas vraiment France Inter, même si pendant longtemps, j'ai écouté France Inter religieusement pour savoir ce que j'étais censé penser dans mon pays et à quel moment je dérapais. Il fallait quand même bien que j'ai la voix officielle de l'orthodoxie. C'est une pratique que j'ai un peu perdue parce que les bandes changeant en permanence, je me suis dit que c'était un effort inutile à fournir. Donc je suis tombé sur cette intervention de Xavier Giannoli sur France Inter par les réseaux sociaux. Bref, oui, hier matin, à l'heure du café, pour promouvoir la sortie mercredi prochain sur nos écrans des Rayons et des Ombres, film remarquable auquel notre collaborateur Marc Obregon a consacré un excellent dossier dans le numéro de l'Incorrect de ce mois-ci, Xavier Giannoli, accompagné de Jean Dujardin, l'acteur principal, s'exprimait au micro de la radio publique. Ce film, affirma-t-il, entre étrangement en résonance avec ce qu'on est en train de vivre. La phrase me parut illustrer surtout le cliché le plus martelé de notre époque, que nous vivons le retour des fameuses heures sombres et que l'avènement est imminent d'un nouveau totalitarisme d'extrême droite sanguinaire, qu'il faudrait par conséquent s'inspirer du scénario des années 30 et 40 du XXe siècle pour savoir réagir avec justesse et éviter de nouveau une catastrophe. Comme Giannoli affirmait à un autre moment que le fait que certains des plus éminents collaborationnistes français, dont son personnage principal Vince de la Gauche, n'impliquait nullement que la gauche ait collaboré, mais que ces messieurs cessaient d'être de gauche du moment où ils collaboraient, en raison d'une contradiction morale évidente, je m'interrogeais sur sa logique et sa bonne foi. À ce compte-là, tous les collaborateurs de droite, censément patriotes et germanophobes, devaient également cesser d'être de droite au moment où ils s'alliaient à l'ennemi, tant leur contradiction morale était évidente. Puis, je reconnus la rhétorique de l'historien Johan Chapoutot, grotesque et omniprésent, devenu l'éminence grise de l'élite médiatique actuelle. Celui-ci s'obstine depuis une dizaine d'années à relire toute l'histoire du Troisième Reich à l'aune de notre époque actuelle pour faire de sa lecture idéologique de la période, complètement tronquée et contrevenant à une grande partie de l'historiographie récente, une arme idéologique au service de l'extrême gauche. On pensait le chantage au ventre encore fécond de la bête, épuisé et avec lui toute sa mythologie infantile, mais voici que Chapoutot la replâtre, soutenue par tous les réseaux publics, en réinventant au passage la légende d'une gauche immaculée, d'un fascisme foncièrement capitaliste en dépit de ses mots d'ordre, d'une collaboration commençant au centre droit. Et les gens du cinéma, premier relais de cette propagande, embrayent, quitte à donner des interprétations stupides de leurs films intelligents.
Pourtant, nous sommes en 2026, cher Omaric. Prévoir le retour des années 30 n'est donc pas totalement inconsidéré.
En effet, cher Arthur. Et puis, on conçoit très bien ce qui stimule ce réflexe à gauche, le triomphe en Occident des mouvements populistes, anti-immigrationnistes, plus ou moins identitaires, voire illibéraux, en réaction à la mondialisation libérale humanitariste qui a caractérisé les 30 ou 40 dernières années. Mais justement, on constate bien en Hongrie, en Italie ou même aux États-Unis, partout où les populistes ont pris le pouvoir, que cela n'a pas débouché sur une abolition du système démocratique, la persécution des opposants, la militarisation de la société ou l'extermination des indésirables. Il est même pas tant que les pouvoirs populistes persécutent moins leurs opposants que les pouvoirs progressistes, lesquels s'enthousiasment par ailleurs de pouvoir bientôt supprimer les indésirables au nom de leur droit à rester dignes. Après que ceci représente un danger, oui, évidemment, comme tout pouvoir, et le césauro-populisme d'un Trump est, ma foi, très inquiétant, je ne le nierai pas. Mais il ne relève d'aucune doctrine claire, justement, et vouloir plaquer sur lui sans arrêt l'étiquette du fascisme empêche de le comprendre, d'étudier l'inédit, ce réflexe témoignant plutôt de la panique d'une gauche incapable d'appréhender le réel en dehors d'un manichéisme eschatologique datant de plus d'un siècle.
En quoi le retour du fascisme serait forcément impossible ?
Le retour du fascisme sous la forme dans laquelle le chasse les antifascistes est impossible parce que les générations qui furent tentées par le fascisme n'étaient pas du tout les mêmes que les nôtres. Elles avaient été élevées dans la discipline, le nationalisme, les tranchées, le feu et le sacrifice de masse. Pas grand-chose à voir avec TikTok, le confinement, la réassignation de genre et les familles recomposées. Leurs aspirations, leurs mythes et leurs dérives ne peuvent en aucune façon se superposer. Je lisais justement le journal d'un étranger à Paris du grand Courdieu Malaparte, qui vient d'être réédité dans l'édition Quarto la semaine dernière. Malaparte fut lui-même, au début de sa carrière, sympathisant fasciste, incarnant l'aile gauche du mouvement mussolinien. Contrairement à tout ce que peuvent rapporter un Chapoutot ou un Giannoli, c'est par admiration pour les idéaux de la France de 1789, par républicanisme et souci du peuple contre l'aristocratie, le clergé et l'institution monarchique que Malaparte suivit d'abord le Duce, avant de s'en détourner ensuite pour résister de l'intérieur. De retour à Paris en 1948, Malaparte est étonné par l'orgueil résistentialiste de l'intelligentsia française, aux yeux de laquelle il passe pour collabo par simple crime d'être italien. Il comprend bien comment la résistance, par son intensité dans notre pays et ses sacrifices terribles, a sauvé l'honneur français, mais ceux qui en font ensuite un commerce mondain et utilisent sa grandeur morale pour traquer le déviant lui rappellent justement l'attitude morale des nombreux collaborateurs qu'il avait eu rencontrés.
La résistance sera devenue un mythe ambigu capable de se retourner contre lui-même ?
On ne saurait mieux le dire, cher Arthur.
Merci.
La résistance suscita un tel héroïsme et de tels sacrifices qu'elle ne pouvait pas ne pas générer un nouveau mythe collectif. On connaît ses différentes phases. Après la guerre, le premier mythe fut celui du glaive et du bouclier. Dans un souci de réconciliation nationale, on sépara les bons pétainistes des mauvais, ceux qui résistaient secrètement derrière le bouclier offert par le maréchal Pétain, et ceux qui résistaient activement avec le glaive de De Gaulle, pouvaient ainsi reconstruire la France ensemble, qu'ils n'avaient pas trahi. C'était idéaliste, mais pas infondé. Ensuite, il y eut le mythe gaulliste d'une France entièrement résistante, que ne troublaient que quelques grumeaux collabos. Ce n'était pas si délirant, dans le sens où, sans avoir d'idée politique particulière, personne, à part deux ou trois opportunistes, n'est ravi d'avoir à supporter un envahisseur qui vous a sans doute tué un frère au passage. Puis, après 68, s'instaura bientôt le mythe délirant d'une France entièrement collabo, fasciste par essence, qui servit la rhétorique du plouc émissaire que dénoncerait bientôt Philippe Muret. À cela succède depuis quelque temps une nouvelle métamorphose du mythe selon laquelle toute la France aurait collaboré, et va de nouveau le faire, sauf une élite éclairée. Et d'autant plus éclairée qu'elle bénéficie des lumières et des paillettes, qu'elle reçoit des Césars et des victoires, qu'elle se déplace en limousine, qu'elle pose sous les flashs et les projecteurs, qu'elle relaie les idées du pouvoir officiel et qu'elle gagne 10 fois le salaire moyen. La voilà, la glorieuse résistance éternelle, et tant pis si elle correspond à la catégorie la plus propice à trahir son pays et son peuple pour ne pas perdre ses privilèges, comme en témoigne le beau film de Xavier Giannoli, Les rayons et les ombres.
Merci beaucoup Romaric. Thomas Morales, vous aussi vous avez peur du retour des années 30, pardon ?
Ah non, moi j'ai pas peur de ça, vous voyez, je suis un optimiste, hein. Malgré ce côté nostalgique, je suis relativement... Je suis relativement optimiste et badin. Voilà. Mon travail, en réalité...
On ne badine pas avec le fascisme,
non,
vous savez.
Mais j'ai l'impression, et c'est pour ça que je suis parfois un peu mal compris, je fais un peu de divertissement. Voilà. Sauf que j'essaie de joindre des choses qui sont... par exemple, prenons la littérature. Moi, j'aime faire des jonctions quasiment impossibles, en littérature ou dans le cinéma. J'aime autant le cinéma d'auteur de Godard qu'un film de Bourvil. Hein. En littérature, j'aime le Morand, le styliste, mais j'aime toute la littérature populiste. Et donc ça, de faire ces passerelles, ça devient quasiment... c'est impossible. C'est quasiment impossible à expliquer. Vous savez, quand on sort un livre, et ça je l'ai vu au bout de... Là, ça fait une vingtaine d'années que j'écris. Vous savez, on fait un service presse. Voilà. On envoie donc des livres à nos confrères. Il y a 20 ans, le service presse n'était pas aussi clivé et clivant. Aujourd'hui, on est malheureusement, je dirais, hein, malgré nous, dans un camp. Il ne viendrait plus à l'idée d'un chroniqueur qui a travaillé et qui travaille au Figaro d'envoyer son livre à Libération, aux Inrocks, voire jusqu'au Monde des Livres. Voilà. Donc le paysage s'est totalement transformé. Moi, quand j'étais ado, lycéen, je lisais, c'est ce qui m'amusait beaucoup, je lisais Patrick Besson. Besson, dans la même semaine, il faisait un papier dans l'Humanité, une chronique télé dans VSD, dans le Figaro. Bon, ça ne posait pas réellement de problème. On pouvait avoir des écrivains de droite dans les colonnes de l'Humanité. Voilà, ça pouvait arriver, des critiques de livres. Aujourd'hui, alors là, c'est totalement, totalement impensable. Donc, on s'est coupé un hémisphère, je sais pas lequel. Et d'une certaine façon, on a aussi perdu des lecteurs. Voilà. Moi, je pense que quand on travaille comme moi sur la nostalgie, on n'est pas non plus un affreux passéiste et un réactionnaire de premier ordre. Voilà, il n'y a pas que ça. Voilà. Et que je pense que je pourrais avoir un public de gauche. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un espoir.
Hein. L'espoir, c'est je veux un lecteur de gauche, une fois. On a parlé de Paris. Vous savez que vous en êtes un provincial. Les provinciaux sont tous très jaloux, parce qu'ils pensent que Paris parle mal d'eux, alors que Paris ne savent pas qu'ils existent. Mais comme on a parlé de Paris, il faut qu'on parle de la province. Ça tombe bien, puisque vous avez publié Tendre et la province aux Équateurs en 2024. Ouais. Alors c'est quoi la province ? Comment on peut la définir ?
Moi, en plus, dans ce Tendre et la province, je parle d'une province très particulière, une province rurale, et... c'est même pas la vie de ville de préfecture ou de sous-préfecture. Moi, je parle quasiment d'une vie villageoise. Mmh. Voilà.
Un
chef-lieu de canton dans la diagonale du vide. Vous voyez, moi, mes départements de prédilection, je suis né dans le Cher. mais c'est l'Indre, la Nièvre. Oui, vous demandez à quelqu'un de placer Nevers, Montluçon, hein, ou La Châtre.
Compliqué.
Il faudra peut-être un agrégé de géographie, hein, pour retrouver ces petits.
Ou une gare TGV.
Là,
il n'y en a plus.
Et là, on n'a pas de. C'est le grand drame. Ne me lancez pas là-dessus, parce que moi, je suis. Alors, je pratique deux types de trains. Voilà, la ligne Paris-Nevers et la ligne Paris qui descend jusqu'à Brive, Toulouse, mais je m'arrête à Vierzon. Cette ligne-là est une catastrophe. Voilà, tous les usagers d'Austerlitz peuvent prendre leur mal en patience. Voilà, ce sont des galères. Alors on nous annonce quasiment tous les 6 mois qu'il y aura des travaux, que les temps de trajet vont diminuer. On le sait bien, voilà, on est totalement. La province est abandonnée. Voilà.
Oui, mais comme vous êtes abandonné, vous avez des vieux trains, et les vieux trains sont bien plus confortables que les nouveaux TGV.
C'est vrai. Alors, on a encore, dans les intercités qui sont des corails, hein, déguisés, effectivement, le confort. Dans un TER, on ne peut pas mettre un ordinateur, on ne peut pas travailler, hein, dans un TER. On est quasiment plié en deux. Dans un intercité corail, c'est le grand luxe, hein, c'est molletonné, il y a du velours. Exactement. C'est très. Donc voilà, être de province, c'est être écarté, voilà, depuis longtemps, mais avoir admis ça, c'est intégré. On sait bien qu'on n'existe pas. Voilà.
Est-ce qu'il y a un état d'esprit ?
Alors, moi, je viens en plus d'une. Il y a un état d'esprit quand il y a une identité, on va dire, régionale, extrêmement forte. Mais moi, je viens d'un coin où l'identité n'est pas si marquée que ça. Vous voyez, le Berry. Qu'est-ce qu'on peut dire pour tracer à grands traits le Berry, Alain Fournier, Georges Sand,
Depardieu,
Deniso. C'est les deux vedettes de Châteauroux, le printemps de Bourges, voilà, et la cathédrale Saint-Étienne, voilà, Sancerre, le Piton et les vignes. Alors dans des endroits où il y a une identité extrêmement forte, moi, j'ai la moitié de ma famille bretonne. Hein, Bretagne, Pays Basque, évidemment Corse. Là, c'est une autre histoire. Donc, on est un peu. On a été des enfants sages, assez bien élevés, très bien éduqués par nos parents. On a cru totalement au système. On a cru à l'ascenseur social. Voilà, moi, les gens de ma génération, je suis né en 74. Tout le monde a été à l'école, tout le monde a fait des études supérieures. Mais on savait, dès mon année de terminale, on savait déjà, c'était intégré totalement, qu'on ne reviendrait pas travailler chez nous en province. Parce que ce sont des bassins d'emploi, là, notamment le centre de la France, très, très faibles. Donc on savait que notre vie professionnelle serait à Paris ou à Detroit ou à Stuttgart. Voilà.
Rémi,
c'est l'un de ces paradoxes. Je suis moi-même provincial et c'est l'un de ces paradoxes de l'opposition entre Paris et la province française. C'est que finalement, et moi ça m'a surpris quand je suis arrivé à Paris, c'est qu'on se rend compte qu'une partie des Parisiens sont en fait des provinciaux. C'est là et c'est finalement pas si. Parce qu'on aime bien monter cette opposition, que ce soit dans la province où on adore détester Paris, à l'inverse, Paris adore mépriser la province. Mais
on beaucoup méprise des Parisiens, pas, on sait pas que ça existe.
Mais si, arrête. Mais beaucoup des Parisiens sont des provinciaux et beaucoup de Parisiens ont des maisons secondaires en province et sont très heureux de revendiquer leur attache rurale ou villageoise dans le Grand Paris ou dans la province française même.
Oui, mais j'ai quand même remarqué, parce que le confinement, ça a quand même secoué un peu les choses. J'ai vu que certains provinciaux, quand ils ont vu arriver ces hordes de Parisiens, ils étaient évidemment mécontents. Bon, souvent, dans 80% des cas, ils ont oublié que ces Parisiens-là étaient nés... à Brest, qu'ils avaient la moitié de leur famille, qu'ils avaient une résidence secondaire, qu'ils participaient aussi à l'activité économique locale, hein, en retapant des maisons, en faisant travailler des artisans. Voilà. Donc, le Parisien, finalement, le Parisien, le provinciaux devenu Parisien, et n'est ni réellement Parisien, ni provinciaux. Donc, il se retrouve dans un no man's land.
C'est un biculture, un binational.
C'est
quoi.
Un binational.
C'est un immigré indésirable, de l'intérieur.
De l'intérieur. Personne ne veut vivre à Paris. Bah, bon, puis, il ne sait pas ce que c'est, Paris. Et puis, en province, on lui dit, bah, non, c'est fini, toi.
T'as trahi.
Alors, sauf avoir une terrasse ou un toit de terrasse à Paris, le rêve de notre cher ami Romain Sangars, le barbecue est plutôt une coutume provinciale. Et donc en 2018, vous avez publié cet éloge du barbecue, noblesse du barbecue. Alors sinon, pour emmerder sur Anne Rousseau, c'est quoi la noblesse du barbecue?
Ah bah c'est de cuire son aliment soi-même. Voilà,
d'abord, on peut le faire dans une poêle, dans une cuisine.
Le plaisir, d'abord, le plaisir du plein air. Alors, attention, on parle du barbecue, du vrai barbecue. Hein. Je ne vous parle pas d'une plancha électrique ou de la gaz, ou gaz, hein, du charbon de bois. Voilà. Voilà, vraiment la féerie du charbon de bois. Hein. Bon, parce qu'il y a cet allumage déjà. C'est toute une pratique qui demande un exercice long. On n'y arrive pas comme ça à allumer un barbecue. Ça ne se fait pas au premier claquement d'allumette. Hein. Et attention, jamais sur la braise. Hein. On fait cuire les choses sur la braise, pas avec des flammes de 3 mètres. Donc j'avais trouvé cet éloge du barbecue, il était parmi d'autres éloges balnéaires. Voilà, il y avait la carte postale, il y avait le cinéma de Max Pécasse, la Miss Camping. Voilà, c'était toute une série de choses qui m'amusaient beaucoup. Mais j'ai vu quelques-uns. C'est rare, hein. Heureusement je suis pelu. Hein. Mais j'ai eu un ou deux commentaires et les gens l'avaient assez mal pris. Moi je trouvais ça très potache, très, très drôle. Hein. Et là, oui, ça remonte déjà 3-4 ans. Déjà à l'époque.
Ah bah même aujourd'hui, ça serait mal.
Aujourd'hui, est-ce que je m'y risquerais? Est-ce que je ferais un tome 2 de l'éloge du barbecue? Je ne voudrais pas prendre une balle perdue quand même.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire cuire? C'est quoi le summum du barbecue? C'est quelle viande?
Oh, bah, c'est une côte de bœuf quand même.
À côte de bœuf.
Oui, c'est une côte de bœuf, allons-y. Oui,
on sent que vous êtes resté longtemps à Paris. La merguez, la chicot.
Le problème de la merguez.
Il faut piquer les saucisses.
Non, il ne faut pas piquer, mais le problème de la merguez et de la chipot, tout dépend où on est envahi par une production industrielle. Vous voyez, l'agroalimentaire a tout gagné. Hein. Donc, une vraie merguez, bien sûr. Hein, je milite pour la vraie merguez artisanale ou la vraie chipot, mais souvent. C'est un conglomérat de choses bizarres, graisseuses. Voilà, donc c'est. Bon, il y a l'andouillette. Alors, ben attention, mais l'andouillette, là, ça demande une dextérité. Il faut être un virtuose. Parce que l'andouillette a quand même tendance à se dépenailler quand même. Donc ça demande beaucoup d'expérience. Là.
Alors, vous avez parlé de Max Pécasse.
Ah, pardon, juste Arthur, sur cette question du barbecue, je voulais. Juste revenir un peu là-dessus, parce que j'avais été frappé au premier numéro de l'Incorrect. J'avais interviewé la rédactrice en chef du magazine Bif, qui est un magazine qui fait l'éloge de la viande et des différents barbecues, avec une qualité de design assez extraordinaire. Et j'avais compris en l'interviewant que c'était un magazine d'origine allemande et qui a un rituel du barbecue allemand qui n'a rien à voir, parce qu'on aurait l'impression, mais c'est justement la question que je vais vous poser, que le barbecue en France a des consonances populaires. C'est un peu la réjouissance populaire par excellence, alors que chez les Allemands, c'est aussi une jouissance de cadre, c'est-à-dire que le cadre allemand, quand il a beaucoup d'argent, il achète une énorme machine à barbecue. Ils adorent les machines, des machines extrêmement sophistiquées qui coûtent des fortunes. Il va chercher des viandes les plus raffinées possibles, et du coup, il y a du barbecue de très haut standing. Outre-Rhin.
Mais ça, c'est l'américanisation,
alors,
je dirais.
Oui, voilà.
Parce que les Américains,
c'est vrai.
Des barbecues immenses. Hein.
Oui.
Moi, c'est extraordinaire. Ce sont des centrales nucléaires. Donc, je pense que les Allemands sont sensibles au mode de vie américain. Le barbecue, effectivement, il est moins présent peut-être dans les pays du sud de la Méditerranée, mais ils ont une grande culture, en Espagne, par exemple, du grill, voilà, de l'assador. Voilà, c'est formidable. Chez nous, ça n'existe pas. Et vous avez raison, c'est un loisir très très populaire.
Alors, il nous reste quelques minutes, je serais ennuyé qu'on n'ait pas parlé de cinéma avec vous quand même.
parce que vous avez parlé justement de Max Pécasse, mais vous avez commencé en parlant de Marielle et d'une voix. Et au moment où vous le dites, je me dis, c'est vrai qu'il y avait quand même trois acteurs où la voix était presque aussi importante que leur jeu.
Ah ouais, ouais.
Noiret, Marielle, Rochefort.
Rochefort.
Ouais. Et on, première note de voix, on savait qui ils étaient, et voilà. Et c'est quand même... alors, soit on a eu un coup de chance fabuleux, nous, Français, soit c'est un truc qui a complètement disparu.
Non, alors on veut dire qu'ils ont, ils ont tous été à bonne école, voilà, le conservatoire et le théâtre populaire, hein, pour le TNP, hein, de Jean Villard, pour Noiret. Bon, je pense qu'on a, on a eu la chance de connaître, parce que c'est une chance incroyable, cet âge d'or là, du cinéma. Ça ne reviendra pas. Là, faut fermer le rideau, c'est terminé. On a connu, voilà, là on est capable de citer trois, mais je mets Brasseur, Crémer, y a des dizaines d'acteurs de très 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 grands talents. Donc évidemment, on a notre réalité est faussée aujourd'hui. Quand on a été biberonné à ce cinéma de grande qualité, et puis la star de cinéma était réellement une star de cinéma, hein. Dans les années 70-80, elle venait pas à la télé quémander quelque chose, hein. Elle nous exposait pas sa vie intime et personnelle à longueur de journée. On ne les voyait que à travers leurs films. Un Belmondo, vous saviez quoi de Jean-Paul Belmondo? Quasiment rien de sa vie privée. Donc c'était le cinéma et les films, la production qui primait. Et puis il y a aussi, je pense que c'est aussi une question de génération, voilà. C'était des gens assez timides, ouais, assez secrets aussi. Voilà, des hommes des années 30 sont des gens plutôt nés dans les années 30 sont plutôt des gens secrets. Un jeu finalement, c'est paradoxal, mais très introspectif. Quand je pense à Marielle, on pense à Marielle l'exubérant, mais Marielle est très fort aussi dans les silences. Voilà. Il a une force dans les silences et quelque chose de la misère humaine, quasiment simnonienne, je dirais. Voilà. L'homme nu, c'est parfois Marielle. Et deux secondes après, c'est la cavalcade, c'est les bons mots d'Audiard, c'est la provocation, c'est l'érotisme, voilà, quitte à aller même presque jusqu'à la vulgarité. Mais il y a cette ambivalence-là avec cet acteur-là qui est pour moi de très très haut niveau.
Et si je vous demande où est la rue Gustave Flaubert, vous me répondez quoi?
Je sais.
Film de Blié. Malheureusement, il est déjà 19h25, ça passe à une vitesse folle, donc j'ai plein de choses à rappeler. Donc, Thomas Morales, je rappelle votre roman, Les Tendresses de Zanzibar, éditions du Rocher, qui est sorti le 4 mars, donc il y a quelques jours.
Ouais,
mais
la semaine dernière.
Avec toute la liste de livres qu'on a cités, chers auditeurs, vous avez de quoi faire. Donc entre L'Éloge du barbecue, des voitures, des livres sur le cinéma. Vous avez fait un livre sur, y a sur Belmondo évidemment, mais un livre aussi sur Broca. Et puis vous avez fait un livre qui réunit justement Marielle, Noiret, toute la petite ouais. bande, parce qu'ils nous ont quittés... le dernier était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, de la nostalgie, mais la nostalgie qui fait plaisir, qu'on regarde avec le sourire, vous l'avez entendu, chers auditeurs, on lit ça avec gourmandise, c'est drôle, c'est amusant, c'est profond, et c'est bah, aussi triste comme toutes les nostalgies, malheureusement. Hélène de Lauzin, Johann Strauss, l'empereur de la valse, aux éditions thaïlandais. Donc bah là, c'est toute la biographie de Johann Strauss, et si vous voulez découvrir le Vienne du 19e, fin 19e, début 20e, bah pareil, c'est un peu nostalgique aussi. On se rappelait qu'à l'époque, les deux grandes puissances, c'était Vienne et Paris. Bref, ça a bien changé. Et la dernière chose, le numéro de l'Incorrect, le nouveau numéro qui est sorti il y a quelques jours, Destin français. Donc Marguerite Stern, Marion Maréchal et Alexandre Devecchio, qu'on a emmené se balader dans la basilique Saint-Denis, comme ça, au choix, complètement par hasard. Voilà, chers auditeurs, nous, on se retrouve mercredi prochain. Demain, ça sera Marc Hainaut de Valeurs Actuelles. Et vendredi, Marc Baudrier de Bouvard Voltaire. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.
Ça suffit maintenant.